Et question donc ce matin sur le moral des Français et leur degré de confiance envers la classe politique depuis le déconfinement. On en parle donc avec nos deux invités, Anne Muxel, directrice de recherche en sociologie et en sciences politiques au CNRS et au CEVIPOF. Édouard Le Cerf également présent, directeur général adjoint de l'Institut BVA. Bonjour à tous les deux. D'abord le moral des Français, depuis le déconfinement, ça va mieux. Enquête BVA publiée mercredi, le déconfinement a été plutôt bien vécu, le moral remonte donc, mais Édouard Le Cerf, dans quelle proportion ce moral remonte-t-il ?
Il remonte de manière relativement atténuée. D'ailleurs, il faut, la première chose peut-être à noter, c'est que le moral ne s'est jamais vraiment complètement effondré. Le moral des Français est resté à un niveau relativement stable, avec des variations, certes, en fonction des annonces ou en fonction des chiffres qui sortaient ou des frustrations à l'égard d'un certain nombre de mesures. Mais c'est vrai qu'il restait relativement épargné. Il s'est amélioré ces dernières semaines, ces derniers jours, on pourrait le dire, mais c'est vrai que c'était intéressant de voir que les Français, en quelque sorte, eut tout de suite une forme de résilience par rapport à cette crise. Ils ont vu leur univers se clore, se réduire, et ils avaient une forme de maîtrise de cet univers le plus proche. Ils disaient pouvoir s'en sortir avec leurs enfants, pour ceux qui devaient rester à la maison, s'en sortir avec le télétravail, pour ceux qui y étaient. Donc il y avait une forme, encore une fois, de résilience. Ça va un peu mieux. Il reste toutefois, malgré toutes les différences entre certaines catégories, comme on l'a vu tout au long de la crise, le moral, il y a des différences entre les hommes et les femmes, par exemple. Les femmes ont un peu moins le moral que les hommes, peut-être parce que leur quotidien est un peu plus compliqué. Les catégories les plus en difficulté, socialement, économiquement, ont également un moral un peu moins fort. Mais c'est vrai que malgré tout, on sent une petite amélioration. Malgré tout, avec de la frustration.
C'est un suivi quotidien auquel vous vous êtes livré avec un dispositif inédit, le roll-up. C'est-à-dire que, en général, quand on sonde les gens, on le fait pas en continu de cette manière-là.
Oui, on a voulu dès le départ, dès le début de la crise, essayer de suivre ces éléments-là, parce que parfois c'était un peu frustrant, parce que justement, lorsque vous êtes un observateur, vous dites, tiens, est-ce que ça va varier, est-ce que ça va augmenter, est-ce que, au contraire, les choses vont se réduire. Mais c'était extrêmement intéressant. On a plusieurs dizaines de milliers d'interviews maintenant cumulées, et ça nous a permis de voir à quel moment, effectivement, il y avait des choses qui se concrétisaient, qui se cristallisaient. Du point de vue du moral, je vous l'ai dit, les choses étaient relativement stables, avec une amélioration ces derniers jours. Ce qui était très intéressant, c'est de voir que, par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur ce qui est des éléments de confiance, très vite, des éléments qui pouvaient être un peu masqués derrière un semblant d'unité nationale au début de la crise, ont très vite retrouvé leur marque politique, leur marque sociale, c'est-à-dire qu'on a très vite vu revenir des différences de perception de l'exécutif, des médias, de l'information, en fonction de votre positionnement politique ou en fonction de votre situation sociale. Oui, c'est très intéressant de voir comment tout ça s'est concrétisé jour après jour.
Les opinions politiques des Français, on va l'aborder dans une deuxième partie de cette séquence. Juste pour revenir sur le moral des Français, la perspective d'une éventuelle deuxième vague de confinement, est-ce que ça mine en ce moment le moral des Français ?
Mais je pense qu'ils l'ont intégré depuis très longtemps, j'allais dire, cette idée que ça allait être très long. Lorsqu'on interrogeait il y a quelques semaines déjà les Français sur la façon dont ils se projetaient, en quelque sorte, dans l'après-crise, ils nous ont dit très rapidement, ça va être long, ça va être lent, ça va être progressif. Il ne faut pas aller trop vite, d'ailleurs. Lorsqu'on leur posait la question sur les élections municipales, sur la réouverture des écoles, ils étaient à chaque fois à nous expliquer que prenons notre temps, c'est la santé qui prime, l'économie certes est impactée, mais c'est la santé qui prime avant tout. Donc ils sont toujours dans cette idée-là de quelque chose, un déconfinement qui doit être progressif. Alors c'est intéressant parce qu'il y a à la fois des envies qui sont extrêmement fortes, l'envie de retrouver ses proches, l'envie parfois pour certains de consommer, l'envie de retrouver un univers comme il était avant la crise, mais aussi avec cette idée que, attention, faisons attention, nous-mêmes faisons attention, les autres, parce que le regard porté sur les autres, vous savez, il y a toujours cette question très intéressante, il y a 90% des Français qui ont le sentiment de bien suivre les consignes, mais il n'y en a que 50% d'entre eux qui ont le sentiment que leurs concitoyens le font. Donc vous voyez, il y a cet ensemble-là entre des envies, des craintes qui sont toujours extrêmement présentes.
À 39%, ils pensent quand même que le pire est à venir. 39%, c'est beaucoup.
Oui, alors ça, c'est... Oui, vous avez raison. Si on compare, par exemple, à ce qui se passe, avec ce qui se passe en Italie, on a aussi une mesure hebdomadaire pour voir la manière. Oui, ils ont encore le sentiment que le pire est devant. Ils sont soit plus de 70% à penser qu'il y aura une seconde vague. On le voit bien. Ils intègrent le fait qu'il faut faire extrêmement attention, que ces choses peuvent revenir. Ça va sans doute permettre, et je pense que ceux qui explique qu'il faut un déconfinement progressif, peuvent se satisfaire d'une certaine manière de ces craintes-là, parce que ces craintes peuvent amener des comportements un peu plus prudents, et éventuellement, c'est en ayant peur d'une seconde vague que peut-être elle n'arrivera pas.
Alors, politiquement, à présent, Anne Muxel, politiquement, face à cette crise, comment les Français perçoivent-ils l'action du président et de son Premier ministre ? Pour l'instant, c'est avantage à Édouard Philippe devant Emmanuel Macron.
C'est vrai que le Premier ministre bénéficie d'un peu plus de confiance que le président de la République, mais malgré tout, cela doit être relativisé parce que le climat de défiance politique exprimé par les Français envers l'exécutif d'une façon générale n'est pas du tout bon et n'est pas bon d'ailleurs depuis longtemps, mais c'est d'une certaine façon encore aggravé avec dans le contexte de la crise sanitaire qui ne pouvait pas justement améliorer les choses étant donné certains problèmes de communication et de moments où la défiance des Français ont pu s'exprimer au travers notamment de la question des masques. Enfin, on ne va pas revenir sur toutes ces questions.
Et on y reviendra tout à l'heure quand même.
Disons que dans le rapport aux politiques, ce moral remonte, si d'une façon conjoncturelle dans le suivi que Édouard Le Cerf a pu faire, eh bien, ce moral peut remonter, mais malgré tout, la défiance politique reste extrêmement importante, surtout si on la compare à celle de pays voisins. Par exemple, au Cevipof, nous avons, dans le cadre du baromètre de confiance politique, mené une comparaison avec nos voisins allemands et britanniques, et on voit que les Français sont beaucoup plus pessimistes, beaucoup plus défiants envers les réponses apportées par leur gouvernement respectifs à la crise. Et donc, voilà, la France reste empêtrée dans cette crise politique importante.
Mais Anne Muxel, est-ce qu'il y a un couple exécutif, on peut dire, même s'il y a une différence entre le président de la République et le Premier ministre, qui apparemment est plutôt en faveur, la cote est plutôt en faveur du Premier ministre, mais est-ce qu'il y a malgré tout une vision d'ensemble de ce couple ? De la part des électeurs.
Oui, c'est-à-dire que bon, je pense bien sûr que si on pose la question aux Français, ils feront peut-être une différence, mais globalement, c'est la réponse de l'exécutif pris comme un tout à partir de laquelle les Français évaluent les capacités du pouvoir politique actuel à non seulement avoir conduit et piloté le pays pendant cette crise, mais surtout à éventuellement proposer des voie de sortie pour la France d'après la crise. Et là, effectivement, on voit bien que la confiance n'est pas de mise. Et d'une certaine façon, Premier ministre et Président de la République sont mis, un peu dans le même sac par rapport à cette projection, à ces capacités de projection pour cette sortie de crise.
Premier ministre et chef de l'État mis dans le même sac, dites-vous Anne Muxel. Édouard Le Cerf, tout de même, les deux hommes durant cette crise n'ont pas forcément été d'accord sur tout. Par exemple, la date du second tour des municipales, finalement ce sera le 28 juin. Or, les Français ne sont pas très chauds pour aller voter au cœur de l'été fin juin.
Non, ils étaient plutôt, lorsqu'on leur a posé la question avant que la décision officielle soit prise, que la date du 28 juin soit posée, ils nous disaient, oui, on peut attendre effectivement en septembre, comme ils expliquent qu'on peut attendre pour la rentrée des classes, comme ils expliquent qu'ils peuvent prendre le temps parce que tout ne doit pas être refait de la même manière immédiatement. Ils avaient envie que l'on prenne ce temps. C'est normal, il y a encore des craintes personnelles, sanitaires, qui sont très très présentes, c'est-à-dire que c'est ce qui a dominé pendant toute cette période et ce qui continue à dominer. Lorsqu'on pose la question des Français, est-ce que on peut la poser de cette manière un peu brute, même si ça n'est pas comme ça que les choses se passent, mais est-ce que vous privilégiez la santé ou l'économie ? Ils nous disent il faut privilégier dans tous les cas la santé. Bien sûr, l'économie viendra derrière. C'est d'ailleurs une des questions qui va se poser sur la manière dont les Français vont se projeter à partir de maintenant. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a considéré qu'il fallait gérer avant tout une crise sanitaire avec des compensations sur l'économie avec la capacité qu'a pu avoir le gouvernement à mettre en place un certain nombre de mesures sur l'économie. Les Français ont le sentiment que l'économie, ou en tout cas l'économie qui leur est la plus proche, leur pouvoir d'achat, la capacité de leur entreprise à passer à travers la crise, ces choses-là sont relativement épargnées. Alors que lorsqu'on leur pose la question de comment l'économie française va survivre, comment est-ce qu'elle va passer à travers cette crise, ils sont extrêmement pessimistes. Cet écart entre la perception d'une économie personnelle qui pour l'instant est préservée et une économie française qui subit de plein fouet, c'est la perception qu'ont les Français, hein, de plein fouet cette crise, cet écart entre cette perception, j'allais dire, microéconomique et macroéconomique, cet écart est très important. C'est au moment où ces deux choses-là, ces deux tendances-là vont se rapprocher, que l'on peut rentrer dans quelque chose qui est une crise plus personnelle, plus dure, et où l'économie reprendra un peu plus fort encore ses droits.
On va aller faire un tour au standard de France Inter au 01 45 24 7000. Vos questions ce matin sur le moral des Français et sur le degré de confiance que les Français ont envers la classe politique. C'est Jean-Claude qui nous appelle. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour. Et tout d'abord, merci pour vos émissions. Heureusement que le service public est là.
C'est gentil de nous le dire.
Pendant cette pandémie, je suis un vieux dans tous les sens du terme, un vieil auditeur.
Et le bienvenue.
Le moral, alors, il faut vraiment faire des piqûres de béton pour avoir le moral en ce moment. Je résume. Le 19 mars, donc, a été voté à l'Assemblée, les 400 milliards attribués aux banques. Tout le monde a voté pour, hein. Tout le monde. On voit les conséquences maintenant, hein. Moi, je crains un tsunami social à la rentrée. Ça commence, hein. Renault, toutes les grosses boîtes. Sans compter les petits restaurants, les petits indépendants, qui eux ne voyaient rien. Hein. Les banquiers, ils les ignorent complètement. Donc je pense que face à cette pandémie et ses conséquences sociales, il y a des solutions. Je vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Moi, je suis militant d'un parti qui s'appelle le Parti ouvrier indépendant démocratique et ce journal, La Tribune des travailleurs. Et on a lancé une pétition pour la restitution des 400 milliards. Parce que c'est 400 milliards! Alors que avant la pandémie, on disait il n'y a pas d'argent, les caisses sont vides, etc. Là, il y a 400 milliards et au niveau européen, je crois que c'est 500 milliards.
On a bien compris le postulat, Jean-Claude. Quelle est votre question ?
Ah ben, la question, c'est que il faut vraiment changer de braquet moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous, les ouvriers, on se rassemble et pour défendre nos acquis. Parce que aujourd'hui, on voit que les banques, elles s'engraissent. Les étudiants crèvent de faim parce qu'ils n'ont plus de petits boulots. Les ouvriers vont se retrouver à la porte. Donc, ces 400 milliards, on ferait mieux de les mettre dans le circuit. Ça veut dire des logements.
Merci.
Ça veut dire refonder le système social.
Merci Jean-Claude.
Y compris la sécurité sociale, parce qu'aujourd'hui, la sécurité sociale, elle est mal partie.
Merci de ce témoignage, Jean-Claude. On va soumettre ce témoignage à nos deux invités, Anne Muxel, directrice de recherche au CNRS et au CVPOF, on le voit bien. Et on va l'entendre également demain lors du Ségur de la Santé, par exemple, avec des discussions pour de meilleurs salaires, avec une politique peut-être plus sociale. Anne Muxel, le chef de l'État a toujours un scotch de premier de cordée, de président des riches qui lui colle au mocassin.
Oui, bien sûr, mais effectivement cette crise sanitaire a remis vraiment à l'ordre du jour et même ou a prolongé plus exactement et encore renforcé cette situation sociale difficile et que les gilets jaunes avaient porté justement dans la rue et au travers des protestations et des mobilisations de l'année dernière. Et donc on voit bien que en France cette crise a encore interpellé la question du libéralisme économique et que donc au travers de revendications qui s'expriment, au travers effectivement du rappel des niveaux de salaire du personnel de santé et de bon nombre d'autres personnels qui ont permis aux Français et à la France de traverser cette crise, eh bien la question des inégalités sociales se pose plus que jamais et interpelle le gouvernement. Il faut savoir qu'en France, les attitudes à l'égard du capitalisme sont assez négatives. Dans notre baromètre politique, nous avons mesuré que 39% des Français, par exemple, souhaitent que le système capitaliste soit réformé en profondeur. Et c'est pas du tout le cas à une telle hauteur en Allemagne, où ils ne sont que 21%, et au Royaume-Uni également. Donc on voit bien qu'il y a là, en France, un terreau, hein, pour remettre en cause la culture culture économique libérale et une
mais avec une différence avec une différence de génération des jeunes qui vont peut-être se politiser davantage ou d'une autre manière. Est-ce que ça va changer quelque chose?
Les jeunes en tout cas n'ont jamais été dépolitisés, hein. Les jeunes ils se tiennent à distance en fait des institutions politiques, ils sont en demande et en expression souvent de d'une démocratie directe, mais ils ne sont pas dépolitisés. Donc évidemment certains d'entre eux peuvent se mobiliser au travers d'actions souvent ponctuelles, et effectivement ça peut être aussi des actions radicales, mais c'est quand même une minorité de la population, et ils peuvent aussi s'exprimer dans les urnes. Je ne sais pas si on trouvera là des voies de repolitisation dans la mesure où il n'y avait pas de dépolitisation. Simplement, cette politisation se fait en dehors des organisations, des institutions politiques, car cette défiance dont nous parlions tout à l'heure à l'égard de la représentation politique est très importante.
Édouard Le Cerf, je voudrais vous soumettre la perspective d'un remaniement ministériel cet été. C'est en principe pour redonner une nouvelle impulsion, justement. Qu'est-ce que les Français attendent comme impulsion? Plus de social, plus d'écologie, comme les macronistes mécontents en ce moment, dans une partie des rangs sur le Parlement?
Votre question est extrêmement intéressante, et d'autant si on la met en perspective avec le témoignage de votre auditeur, et aussi ce que disait Muxel. Ce qui s'est passé durant cette période, ça a été potentiellement une accentuation ou une confirmation à l'aune de la vision que chacun a de la société, une confirmation qu'étaient ses convictions. C'est-à-dire que, en gros, ceux qui pensaient qu'il fallait plus de social se disent le virage social doit être maintenant accentué, et cette crise a bien montré qu'il y avait des fractures sociales, et c'est sûrement vrai. D'autres disaient, écoutez, tout ça vient d'une mauvaise maîtrise de l'écologie, et il faut maintenant accentuer dans cette rentrée une nouvelle reprise écologique. D'autres disent, attention, l'économie, il faut la protéger, il faut effectivement mettre des barrières, et dans ce cas-là, ils sont confortés dans leur position. Donc, on le voit bien, cette crise n'a pas modifié un certain nombre de fondamentaux, de structuration de l'opinion. Elle a eu tendance à les accentuer. On était un peu sous cloche, maintenant on sort sous cloche. Vous savez, quand il y a quelque chose sous cloche, ça peut fermenter un peu. Et lorsqu'on ouvre, on voit que ça prend des directions importantes.
Mais enfin, les écolos, en ce moment, ne font pas un tabac, c'est malgré l'urgence.
Quand vous regardez la manière dont on interroge l'opinion, les gens nous disent oui, il faudrait une reprise, mais il faudrait une reprise plus raisonnable. Vous avez raison, il y a un certain nombre de personnes qui disent il faut absolument relancer l'économie comme avant, mais d'autres qui diront mais on avait raison, regardez ce qui se passe, c'est un rapport à la nature qui a été brisé et qui fait qu'aujourd'hui ces pandémies peuvent arriver. Donc je pense que chacun était plutôt conforté. Et lorsqu'on parle d'un remaniement, ça ne veut rien dire pour les Français. On va être simple, clair et direct.
Remanier, mais avec qui pour remplacer, c'est encore une autre histoire. Juste un mot sur les personnalités politiques qui sont distinguées à la faveur de cette crise. À droite d'abord, qui se distingue? On parle beaucoup de Xavier Bertrand, et on parlait ce matin de... j'oublie son nom, c'est ridicule. Je vous lirai dans un instant. Darmanin, voilà, pardon. Darmanin, Xavier Bertrand. Darmanin, oui, Gérald Darmanin, Xavier Bertrand sont les personnalités qui montent. Alors Alain, macroniste, l'autre à droite.
Oui, elles montent dans leur visibilité médiatique. Elles essayent de se positionner. Pour autant, lorsqu'on regarde la manière dont les Français les apprécient et nos codes de popularité ou nos codes d'avenir, il n'y a pas non plus de personnalité qui est forcément fondamentalement émergée. Là encore une fois, il n'y a pas eu de rupture. Chacun cherche effectivement soit à exposer un point de vue qui lui est particulier ou en tout cas à se positionner. C'est une des forces. On parlait tout à l'heure des faiblesses du gouvernement et de la difficulté qu'a l'exécutif face à l'opinion. C'est vrai qu'un des éléments qui peut compenser cela, c'est de voir qu'il n'y a pas vraiment de personnalité politique ou de mouvement politique, qu'il soit un mouvement d'union nationale, qu'il soit un mouvement dans une tendance politique spécifique, qui a pris une aura particulière, qui a été mis en avant ou qui apparaîtrait comme étant la solution pour demain. C'est un élément, encore une fois, il y a des personnalités qui émergent, il y a des prises de parole qui peuvent être différentes, mais pour autant, elles sont souvent dans la confirmation de quelque chose qui était engagé avant.
On a plus le temps d'en parler que Marine Le Pen préparait ses arguments pour réclamer des comptes à l'Élysée sur la gestion de la crise. Merci beaucoup d'être venu éclairer nos lanternes ce matin sur France Inter. Anne Muxel, directrice de recherche au CNRS et au CEVIPOF, et Édouard Le Cerf, directeur général adjoint de l'Institut BVA. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de France Inter et bonne journée à tous les deux.